Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est midi pile à Kinshasa, 13h à Beni, au Nord Kivu. Bienvenue, tout de suite, voici les titres de ce journal. Affaire de suicide de Chérubin Okende, selon la version de la justice congolaise. Le porte-parole d'Ensemble pour la République, Maître Hervé Diakiesse, parle des conclusions scandaleuses et des délits de justice inadmissibles. Et pour l'Azado, la conclusion que les autorités en charge du dossier Okende ont rendue publique est la plus ridicule qui soit. Au Nord Kivu, une vive tension a été observée ce matin à Mavivingité, à une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. Des habitants sont descendus dans la rue pour protester contre la mort de 4 civils tués la veille dans une attaque attribuée aux rebelles des ADF. L'invité de ce journal est le docteur Baba Mutuza, médecin à la clinique Dieu est grand de Beni au Nord Kivu. Il parle de la situation du manque d'eau de la régie des eaux depuis plus d'une semaine, d'au moins deux tiers des habitants de la ville de Beni qui n'ont pas cette eau et des conséquences sur cette situation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Affaire des suicides de Chérubin Okende. Selon la version de la justice, l'avocat Hervé Diakiesse, porte-parole d'Ensemble pour la République, parle des conclusions scandaleuses et des dénis de justice inadmissibles. En réaction au rapport du procureur général près la Cour de cassation, concluant au suicide de l'ancien ministre des Transports et député national, Maître Diakiesse déclare que tout sera mis en œuvre pour soutenir les démarches de la famille du défunt afin d'obtenir une justice autrement. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Ces conclusions nous ont scandalisés et nous révoltent. Mais ça nous permet de conclure que la justice congolaise ne veut pas des manifestations de la vérité dans l'affaire Chérubin Okende. Cette conclusion est un déni de justice parce qu'en concluant au suicide, on clôture l'enquête et il n'y a plus homicide. Et ça, c'est totalement inadmissible. D'abord, même si nous entrons dans la logique du procureur général, il ne nous dit toujours pas quelle est la cause de ces suicides. Est-ce par asphyxie, strangulation, par balle? Il s'était là-dessus. Or, seul le rapport des médecins légistes, donc le rapport d'autopsie, aurait permis de connaître le cause exacte de la mort, l'heure de la mort, ainsi que les circonstances probables de la mort. Ces rapports ont toujours été exigés par la famille et la justice congolaise ne veut pas les mettre à la disposition de la famille.
Rappelons qu'au cours de sa communication hier jeudi à Kinshasa, le procureur général près la Cour de cassation a indiqué que tous les rapports des experts nationaux et internationaux sud-africains du BCNDH et d'une Belge comme simple observatrice convergent à la même conclusion, à savoir les suicides par balles. Mais pour sa part, Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine des droits de l'homme, estime par le fait que les autorités judiciaires aient menacé toute personne qui critiquerait cette décision d'arrestation démontre suffisamment qu'elles-mêmes sont convaincues que personne ne va croire dans ce qu'elles ont dit. Jean-Claude Katende s'est ainsi exprimé ce vendredi à Radio Kapi, au lendemain de l'annonce du procureur général de la République. Jean-Claude Katende est au micro de Paul Matendo.
La conclusion que les autorités en charge du dossier Okende ont rendue publique hier est la plus ridicule qui soit. Le fait qu'elles aient menacé toute personne qui critiquerait cette décision d'arrestation démontre suffisamment qu'elles-mêmes sont convaincues que personne ne va croire dans ce qu'ils ont dit. Elles ont oublié que la justice appartient au peuple congolais et que ce dernier a le droit de pouvoir commenter les décisions judiciaires. Nous croyons que le jour où le peuple congolais comprendra que la justice est rendue en son nom, ce jour-là, il osera interdire à certaines autorités judiciaires de se rendre à leur bureau, tout simplement parce que celles-ci démontrent suffisamment qu'elles ne sont pas dignes de la confiance que le peuple congolais leur a faite de pouvoir rendre des justices qui renforcent la paix, l'équité et la justice.
Au Nord Kivu, une vive tension a été observée ce matin à Mavivingité, une localité située à une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. Des habitants sont descendus dans la rue pour protester contre la mort de 4 civils tués la veille dans une attaque attribuée aux rebelles des ADF. Les forces de défense et de sécurité sont intervenues pour rétablir l'ordre public. De son côté, la MONUSCO annonce l'intensification de ses patrouilles dans la zone. Marc Marofimbo pour plus de détails.
L'attaque de la localité de Mavivinguité par des assaillants assimilés aux rebelles des EDF est intervenue jeudi soir aux environs de 21h heure locale. Selon des sources locales, les assaillants ont tué entre 3 et 4 civils et blessé 5 autres. Les FRDC et les casques bleus de la MONUSCO sont intervenus pour empêcher la poursuite de l'attaque. Deux femmes parmi les civils blessées ont été évacuées par les casques bleus tanzaniens à l'hôpital général de Beni. Ce vendredi matin, une vive tension était observée à Mavivinguité où des habitants sont descendus dans la rue pour protester contre cette nouvelle attaque des rebelles des EDF. Ils ont érigé des barricades sur la route nationale numéro 4, empêchant ainsi la circulation entre la ville de Beni et la commune rurale d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Beni. La police et l'armée sont intervenues pour lever les barricades et rétablir l'ordre. Signalons que c'est la deuxième fois en l'intervalle d'une semaine que la localité de Mavivinguité est ciblée par une attaque attribuée aux EDF. La société civile locale plaide pour l'intensification des patrouilles de l'armée dans la zone où des mouvements suspects d'hommes armés non identifiés sont observés depuis quelques jours. De son côté, la MONUSCO annonce l'intensification de ses patrouilles dans la zone. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
À Bunia, dans la province de l'Ituri, les activités économiques ont été paralysées ce vendredi. C'est en effet aujourd'hui que se tiennent les obsèques des 15 personnes tuées par la milice Codeco le 16 février dernier à Talisingo, à une vingtaine de kilomètres de Bunia dans les territoires des Djougou. Après la levée de corps ce matin à Bunia, leurs dépouilles ont été transférées à Katsou dans les mêmes territoires où elles seront inhumées. Et un fort dispositif sécuritaire a été observé à certains endroits de la ville. Les détails avec Jean-Claude Lokidili.
Magasins, marchés, stations-service, banques et salons de coiffure sont fermés depuis ce matin. Seules les pharmacies sont ouvertes. Aux premières heures de la matinée, quelques habitants, parmi lesquels des tenanciers de boutiques, des motards et autres commerçants, se sont positionnés le long des artères du boulevard Lumumba. Certains que nous avons interrogés disent répondre au mot d'ordre de journée de deuil lancé par la communauté Ante, dont les membres ont été tués il y a 2 semaines par la milice Codeco à Talisingo, à une vingtaine de kilomètres de Bunia dans le territoire de Djougou. D'autres disent avoir obéi à cet appel par peur de pillage de leurs biens et magasins. Des éléments de la police appuyés par les militaires des FARDC ont été déployés à certains carrefours, ronds-points et autres points chauds de la ville. C'est pour prévenir d'éventuels débordements, précise le commandant urbain de la ville qui affirme qu'aucun incident n'a été enregistré. Une foule immense sous escorte de la police et de l'armée a accompagné les corps des victimes dans une ambiance triste et de forte émotion. Bounia, Jean-Claude Lequi, Dile, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la peine de mort, c'est la sentence prononcée mercredi dernier par la cour militaire au terme d'un procès de 7 mois qui opposait le ministère public à un officier de l'armée. Jusqu'à sa condamnation, cet officier était reconnu coupable de crimes de guerre par exécution extrajudiciaire. Le compte-rendu de Gabriel Ouamenia.
L'officier condamné, c'est le colonel Deogracias Paluku, alors commandant second en charge des opérations du 34e régiment basé à Masisi Centre. Il était poursuivi pour l'infraction des crimes de guerre par meurtre. C'est au cours de l'instruction de l'affaire devant les juges que la cour a requalifié la dite infraction et l'a mis en infraction des crimes de guerre par exécution extrajudiciaire conformément à l'article 8 du statut de Rome. En effet, vers la fin de l'année 2021, l'officier mis à perpétuité derrière les barreaux a enterré vivant et ligoté dans une fosse commune des combattants du groupe armé APCLS, Baraka et Ushindi qui se sont rendus aux FRDC dans la localité de Kahongole. Pour raison d'enquête, les corps des victimes ont été exhumés pour y effectuer une autopsie avant d'être mis dignement à nouveau en terre. Rappelons que les audiences de ce procès qui a duré 7 mois ont bénéficié de l'appui de la MONUSCO à travers sa section d'appui à la justice. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
En bref, à Goma, la circulation routière a été perturbée ce vendredi dans la matinée sur l'axe Mutinga Vision 2020 au quartier Majengo, au nord de la ville. Certains jeunes présumés militants du parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique de Mouindo Nzangui ont placé des barricades sur la chaussée. Selon plusieurs témoins, ces manifestants protestaient contre l'arrêt prononcé hier jeudi par la cour d'appel de Goma. Cet arrêt invalide l'élection des membres de leur parti politique, Daniel Zungundi, à la députation provinciale ville de Goma en faveur du député Elvis Mutiri. Les mêmes témoignages font état des manifestants mortellement blessés dans une altercation contre la police déployée sur place pour rétablir de l'ordre. Toujours au Nord Kivu, la situation reste calme mais incertaine. Ce vendredi, c'est toutes les lignes de front dans tous les trois territoires en proie à la guerre des rebelles du M23. Cependant, les sources concordantes dans les zones de combat confirment les renforcements des positions rebelles avec l'arrivée depuis les débuts de cette semaine. Les débuts de cette semaine des nouvelles troupes et des matériels de guerre à Rutshuru et à Kibumba dans les territoires de Nyiragongo. Rappelons que le bilan des incidents d'hier par bombe qui ont visé les véhicules blindés des forces de la SADC font état de 3 blessés graves, dont 2 militaires tanzaniens, un civil touché par les états de bombes. Au sud Kivu, pendant ce temps, situation humanitaire très critique dans les territoires de Kalehe. Plus de 108 000 déplacés vivent difficilement à Minova depuis janvier à février 2024. Ce sont les personnes qui fuient les affrontements persistants dans les territoires de Massissi voisins. Du coup, une vingtaine d'écoles sont occupées par les déplacés. Les centres de santé sont saturés, faisant plus de 120 consultations par jour. C'est ce qui ressort du rapport de la communauté humanitaire OCHA, publié hier jeudi. Des détails avec Emmanuel Elamezou Akabedi.
Le rapport de OCHA indique que depuis le 2 février dernier, plus de 108 000 déplacés sont arrivés à Minova dans le territoire de Kalehe en provenance du territoire de Massissi. Ils vivent dans des conditions précaires. Certains sont dans les familles d'accueil, d'autres encore dans des sites spontanés ainsi que dans des écoles et bâtiments publics déjà surchargés. Sur le plan de l'éducation, 23 écoles sur 60 sont actuellement occupées par les déplacés à Minova. Les écoles fonctionnelles sont également surpeuplées avec plus de 150 élèves par classe. En plus, les structures de santé sont saturées, posant des problèmes d'accès aux soins. Les centres de santé de Minova et celui de Bobandano enregistrent chacun plus de 120 consultations par jour des personnes déplacées. Des mesures urgentes de quadrillage, de prévention et de renforcement des conditions d'hygiène s'avèrent nécessaires dans les sites de déplacés et même au sein des communautés locales. Les acteurs humanitaires ont besoin d'un accès sécurisé pour fournir une assistance vitale aux populations affectées. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
À Kungu, dans le sud Ubangi, les enseignants menacent de boycotter le travail. Ils exigent, entre autres, le paiement de leur salaire des mois de janvier et février 2024, mais aussi la prime de gratuité, ainsi que les frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires. Mais eu égard au dialogue en cours à Bibwa, Kinshasa, entre le gouvernement et les délégués des enseignants pour la paix sociale au sein de l'EPST, l'intersyndicale des enseignants de Kungu formule des recommandations, entre autres l'obtention du statut particulier des enseignants et la suppression des zones salariales. On écoute le président de l'intersyndicale, Emmanuel Bamolokula, au micro de Paul Richard Malingela.
Aux camarades syndicalistes nationaux et provinciaux qui sont actuellement à Bibwa dans la commune de Lancele à Kinshasa, n'oubliez pas que point n'est besoin de discours inutiles de bonnes intentions dans ces travaux de la commission paritaire qui ne favorisera pas l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Mais attendons plutôt de ces assises les résultats concrets ci-après. 1. L'obtention du statut particulier des enseignants. 2. La suppression des zones salariales conduisant à l'injustice sociale avec des écarts de salaire dans un même ministère. 3. L'alignement à la paye des NP et NI car bientôt la gratuité va s'étendre au secondaire suivant la promesse du chef de l'État. 4. De la transposition des grades des enseignants de carrière. Et 5. Enfin, les paiements avec effet rétroactif des arriérés de la prime de gratuité et les frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires et aux bureaux gestionnaires depuis le mois de décembre 2023, faute de quoi le gouvernement sera lui seul tenu comme responsable.
Actualité internationale.
Après la libération par la justice guinéenne d'un syndicaliste de la presse, les centrales syndicales ont annoncé la suspension de leur grève générale pour entamer des négociations avec le pouvoir. Ce mouvement social très suivi a occasionné la fermeture des banques, des écoles ainsi que de nombreux commerces dans la capitale Conakry durant 3 jours. Au Mali, une trentaine de morts dans l'attaque du camp militaire de Kouala, situé à environ 200 km au nord de Bamako en direction de la frontière mauritanienne, cible d'une attaque terroriste. L'armée l'a confirmé dans un communiqué sans donner de bilan, mais les sources dans la région confirment une trentaine de morts. Aucune revendication pour le moment.
L'invité.
L'invité de ce journal est le docteur Baba Moutouza, médecin à la clinique Dieu est grand de Béni, au Nord Kivu. Il parle de la situation du manque de l'eau de la régie des eaux depuis plus d'une semaine, d'au moins et au moins deux tiers des habitants de la ville de Béni. Les habitants sont obligés de s'approvisionner en eau de puits et autres sources aménagées avec plus de risques liés à la consommation de cette eau. Le docteur Baba Moutouza s'entretient avec André Kitenge.
Docteur Baba Moutouza, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les risques liés à la consommation des eaux des puits et autres sources d'eau aménagées?
Alors, je voudrais commencer par une expression courante. Il est souvent dit que l'eau, c'est la vie. Vous comprenez l'importance de l'eau d'une manière générale. Mais en réalité, si nous devons rentrer sur le plan physiologique, c'est-à-dire la condition du corps humain, nous allons prendre deux exemples simplement. Le corps de nouveau-né, c'est-à-dire celui dont l'âge varie entre 0 et 28 jours, est constitué à plus de 90% d'eau, uniquement d'eau. Pour les adultes, nous sommes constitués à peu près à 60% qu'est de l'eau. Vous voyez à quel point l'eau devient un élément essentiel pour notre vie, pour l'homéostasie intérieure. L'eau intervient dans l'hydratation du corps, l'eau intervient dans la volémie, c'est-à-dire la quantité globale de sang, ça va. L'eau aussi favorise les transports des minéraux, notamment les calciums, les potassiums, les sodiums. Et c'est grâce à ces éléments-là que le corps ou l'organisme humain arrive à faire face à des agresseurs étrangers, c'est-à-dire externes, et à maintenir son équilibre interne qu'on appelle l'homéostasie.
Est-ce que boire de l'eau contaminée peut avoir des effets négatifs sur la santé? Si oui, quels sont ces effets?
Beaucoup d'effets néfastes. En réalité, nous parlons souvent des maladies hydriques. C'est ça le thème qui est généralement utilisé. La plupart des temps, lorsque vous buvez de l'eau contaminée, les grands risques, c'est les risques d'épidémie. Les grandes maladies que nous pouvons citer ici, nous allons citer les maladies qui sont endémiques chez nous. Parlons de la fièvre typhoïde, par exemple. Nous avons aussi l'amibiase, mais dans sa forme grave, elle entraîne la dysenterie amibienne. Mais vous voyez aujourd'hui, par exemple, un exemple qui est plus frappant. Dans les zones, aujourd'hui, il y a de la guerre, il n'y a pas d'eau potable. Il y a une épidémie de choléra qui est en train de sévir là-bas. Et donc, toutes ces maladies-là, on appelle les maladies périls, les maladies hydriques, viennent du fait, soit l'eau n'est pas bien traitée, soit il est de mauvaise qualité ou carrément contaminé. C'est qui la plupart des cas chez nous. Parce que aujourd'hui, avec l'absence, la pénurie d'eau, disons aussi que même quand l'eau est là, la tuyauterie, l'énergie des eaux, elle est vieillissante. C'est-à-dire que l'eau que nous recevons déjà au robinet n'est pas totalement potable, tout de même. Mais déjà, cette eau-là n'existe pas non plus. Alors, le fait que nous utilisons aujourd'hui l'eau de puits, pour la plupart du temps, c'est l'eau qui est contaminée par ces phénomènes que nous avons aujourd'hui, des fosses septiques. C'est-à-dire, ils s'arrangent pour créer des fosses septiques au même niveau qu'à la nappe phréatique et c'est des excréments qui les déchirent. En réalité, contamine la nappe phréatique et cela entraîne qu'il y ait de l'eau déjà à la source contaminée. Deuxièmement, il y a aussi, j'aimerais dire, et ça c'est un aspect important, l'entretien du puits. On ne fait pas d'entretien de puits. C'est-à-dire, la poussière aujourd'hui peut facilement contaminer. Les eaux de puits qui sont généralement acides contaminent et cela est à la base de beaucoup de maladies, c'est-à-dire des diarrhées, peuvent encore être exacerbées si les gens sont des extrémités, les petits-enfants et les vieillards.
Aujourd'hui, la ville de Béni fait face à la pénurie d'eau potable parce que la régie des eaux a beaucoup de problèmes. Comment peut-on utiliser l'eau des puits et des sources aménagées dans différents ménages?
Ça maintenant, c'est une très bonne question. Parce que dans ces cas-là, ces eaux des puits et les sources aménagées deviennent comme la source principale de production d'eau chez nous. Et donc, il faut souligner ici que cette eau-là nous sert des ménages, c'est-à-dire préparer la nourriture, ça nous sert aussi à boire et ça nous sert aussi pour prendre un bain. Alors, comment faire? Il y a deux façons de traiter d'eau. Nous pouvons le traiter d'une manière naturelle, sans qu'on puisse y mettre des produits. Et dans ces cas, il faut bouillir de l'eau. C'est une façon de stériliser l'eau. Deuxièmement, c'est utiliser des désinfectants naturels. Le plus répandu aujourd'hui, ils sont à un prix très abordable, les comprimés d'aquatab. Il y en a, et même le dérivé du chlore. On peut facilement prendre cela. Généralement, on prend un comprimé que nous allons mettre dans 20 litres d'eau. Il faut attendre il y a 3 heures. Vous pouvez facilement recourir à cette eau-là. La troisième étape, c'est la filtration d'eau.
Quel conseil donnez-vous à la population avant d'utiliser l'eau des puits et des sources aménagées à l'absence de l'eau potable qu'a aujourd'hui dans plusieurs quartiers de la ville de Béni?
Le tout premier conseil, c'est avant tout un conseil qui ne cadre pas forcément avec la santé, mais qui cadre avec notre écologie. Cela nous pousse tout simplement, nous responsabilise pour dire que ce que nous faisons à la nature a des répercussions directes sur nous. On ne peut pas continuer à déboiser, c'est-à-dire à couper les arbres d'une manière arbitraire. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un premier aspect. Et un deuxième aspect, c'est cet entretien de nos sources d'eau aussi. Il arrive très souvent que dans les quartiers, c'est dans les sources d'eau que nous allons jeter les excréments le matin ou les urines le matin. À ce moment-là, nous ne réalisons pas qu'en polluant ces sources d'eau en amont, ceux qui sont en aval vont facilement en souffrir. Et donc, il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience, j'aimerais dire, directe. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément maintenant, comme nous avons dit, il faudra bien aménager nos puits et nos sources d'eau. Par exemple, il faut y mettre le chlore, bien dosé, généralement. Il faut mettre le puits très loin des fosses septiques. Et pour la régie des eaux, comme c'est un problème chronique, nous espérons que seulement l'État, à un moment ou à un autre, il pourra trouver le moyen de venir en aide à la régie des eaux pour que nous puissions avoir de l'eau de qualité.
Docteur Baba Mutuza, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité, le docteur Baba Mutuza, médecin à la clinique Dieu est grand de Béni au Nord Kivu, qui s'entretenait avec André Kitengi. Et c'est la fin de ce journal qui a été supervisé par Jacques-Yves Molima et mis en onde par Pierre Diassinois. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.